avec Benjamin Smadja et Elsa Dupéret.
La journée finit bien.
On va parler d'un film extrêmement attendu avec son acteur principal et son réalisateur. C'est Astérix qui est avec nous. Bonjour Guillaume Canet.
Bonjour.
Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu. Bah, la première question extrêmement large, quand on arrive sur un projet comme Astérix et Obélix, on le prend par quel bout ? C'est tellement ample.
Moi au départ j'ai eu 30 pages qu'on m'a fait lire. En fait, il y a un projet qui était déjà un petit peu avancé, en fait, qui était en tout cas l'intention de faire un Astérix en Chine, qui s'appelait l'Empire du Milieu. Non, la Route de la Soie, il s'appelait d'ailleurs. Et donc, il y avait cette envie de faire un film avec un voyage, un film d'aventure. Et c'est ça qui m'a plu quand j'ai découvert le projet. Parce que j'ai vu qu'il y avait matière à faire un film épique, un grand film populaire d'aventure. Et puis après, on met les mains dans le cambouis. Hein. On y va et puis on écrit l'histoire que j'ai écrite avec Philippe Méchelin et Julien Hervé. Et d'abord avec eux et puis après, tout seul, j'ai enchaîné tout seul à travailler sur le scénario pendant plusieurs versions. Et voilà, c'est assez particulier parce que c'est la première fois qu'il y avait un scénario vraiment original pour un live, hein, ce qu'on appelle un live. Et donc, du coup, il y avait une grande liberté, mais en même temps, il y avait le devoir d'être resté dans l'ADN d'Astérix. Et donc, du coup, on avait heureusement l'aide des ayants droit de Sylvie Uderzo et de Anne Goscinny, les filles en fait de René Goscinny, Albert Uderzo.
Aide ou parfois, on va être franc, un petit peu contrainte aussi de pas pouvoir forcément faire tout ce qu'on voudrait. Après, je ne sais pas si vous avez
bien
pu
sûr
faire tout ce que vous voudriez.
Non, mais bien sûr, c'était un peu les gardiens du temple avec Hachette qui étaient les ayants droit. Et il y avait une vraie volonté de leur part, très précise. Mais c'était précieux aussi. Enfin, moi, je trouve que c'est important aussi pour tout le monde, pour tous les gens qui sont fans en fait, de la BD, d'être fidèles à la BD.
Et dont moi, vous faites partie dans les remerciements.
Bien
c'est
sûr.
Écrit, souvenirs d'enfance.
Oui, bien sûr. Moi, j'ai grandi en lisant ces BD que je lis aujourd'hui à mes enfants. Donc, j'étais très heureux.
Justement, vos enfants voulaient vous dédier ce film. Mmh. Pour Noël, personnellement, une grande tante a offert toute la collection à mes enfants. J'ai été très fière qu'ils reçoivent cette collection. Qu'est-ce qu'on lègue à ces enfants lorsqu'on réalise Astérix ou plus modestement quand on leur offre des Astérix ?
Un voyage transgénérationnel, en fait. C'est vrai qu'on se rend compte à quel point ces aventures, ces personnages touchent des générations. On voit encore aujourd'hui le succès énorme qu'ont les albums quand ils sortent. Et il y a quelque chose de très nostalgique en même temps là-dedans. Et moi, je trouve que c'est une BD, des personnages qui ont une certaine valeur. C'est des personnages qui, certes, ils luttent contre César et contre l'envahisseur de César, mais en même temps, ils sont toujours à aider leur prochain, à aider les gens qui arrivent de l'étranger, qui leur demandent de l'aide. Et ils ont toujours prêté main forte à ces gens-là. Et c'est des personnages qui sont un peu bourrus, mais en même temps, c'est des bons vivants. Et voilà, un peu de mauvaise foi, comme les Français.
Beaucoup
voilà.
De mauvaise foi. Et quel est votre personnage préféré, si vous en avez un ?
Il y en a plein, mais c'est vrai que j'ai une tendresse particulière. Franchement, j'aime beaucoup mon personnage parce que c'est vrai que Astérix, c'est un personnage qui est valeureux, qui est conquérant, qui a envie d'aider les gens, qui est plein de bonne volonté, qui est en même temps touchant parce que, et ce que j'ai voulu en faire là aussi dans ce personnage-là, c'est qu'il est un peu triste. Enfin, il est frustré de ne pas avoir la force de son ami. Il sait qu'il est dépendant d'une gourde et ça le rend malade d'être faible, en fait, de ne pas être aussi fort que son copain. Mais voilà, il y a Obélix qui est extrêmement touchant. Son regard enfantin sur les choses, sa naïveté.
C'est vrai que c'est un duo par rapport aux autres films qui est peut-être plus touchant et plus humain. Vous êtes arrivé comme ça un peu par hasard ou alors ?
Non, il y a une vraie volonté de ma part de placer vraiment Astérix et Obélix au cœur de l'histoire. Les autres films sont formidables, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ils étaient un peu au secondaire, en fait, les personnages Astérix et Obélix. C'était à chaque fois Jamel Debbouze ou Benoît Poelvoorde ou Guillaume Gallienne ou voilà, d'autres qui prenaient le dessus, en fait, sur cette histoire. Et moi, c'est vrai que j'avais envie que ça soit vraiment eux qui soient au centre de l'histoire. Et du coup, ça nous permet de développer ces deux personnages qui découvrent l'amour, qui sont comme deux ados, en fait, et qui se tiraillent. Et qui, voilà, ça me faisait plaisir.
Mais on les trouve comment, ces personnages ? Parce qu'ils sont tellement culte quand il faut les interpréter, quand on n'est pas dans la caricature finalement d'un Roger Carrel ou d'un Pierre Tornade qui étaient ceux à l'époque des dessins animés. Comment on travaille ?
C'était alors la première fois on a fait une répétition avec Gilles, c'était un ou deux mois avant le début du film. Ça a été une catastrophe. On est arrivé, on a commencé à répéter la première scène et c'était n'importe quoi. On était en train d'imiter Astérix et Obélix, on n'était pas du tout dans les personnages et on a eu très très peur. Et le soir, j'ai rappelé Gilles et je lui ai dit écoute, je pense qu'il faut qu'on travaille avec quelqu'un en plus qui nous aide à travailler vraiment le personnage. Et on a rencontré un coach dont on m'avait parlé, qui est formidable, qui s'appelle Daniel Marchaudon.
Et pardon, il est coach en Astérix ?
Non, il est coach d'acteur.
D'accord.
C'est quelqu'un qui aide les acteurs, en fait, à travailler les personnages, à aller un peu plus profondément dans les personnages, dans la psychologie des personnages. Et j'ai rencontré Daniel Marchaudon et il m'a fait faire un exercice déjà la première séance qui a été extraordinaire. Il m'a demandé de lui raconter l'histoire du film, du scénario, mais comme si j'étais Astérix. Donc Astérix raconte l'histoire. Et là, en fait, au bout de 20 minutes, je me suis rendu compte que je parlais comme un ado. J'ai dit, ouais, mais bon, Obélix, il est là, il comprend pas que moi, je veux arrêter de manger de la viande parce que je me rends bien compte que c'est pas bon pour ma santé, que lui, il est là tout le temps. Et je me suis rendu compte que je parlais comme un ado et que tout le film se voilà. Et petit à petit, j'ai trouvé une voix, j'ai trouvé une manière de parler, de bouger. Et voilà, et il a travaillé avec Gilles de son côté aussi. On a travaillé comme ça pendant un mois et demi. Et quand on s'est retrouvé le jour du tournage, on avait cette complicité que l'on a, nous, déjà réelle, amitié depuis longue date, mais qui ne suffisait pas, en fait. Et là, c'était vraiment, on pouvait vraiment jouer les deux personnages, quoi.
Et pour les autres personnages et les autres comédiens, comment est-ce qu'on fait pour diriger à la fois Vincent Cassel, Marion Cotillard ou Zlatan à l'opposé ? Est-ce qu'eux, ils ont joué les adolescents ? Est-ce qu'ils étaient dans le jeu tout de suite ?
Il y en a qui jouent mieux que d'autres, hein, on ne va pas se mentir, oui. Parmi les noms qui ont été cités.
Non, moi je trouve qu'ils sont bons. Quoi. C'est Zlatan que vous ne trouvez pas bon.
Non, ce n'est pas bon, c'est parce qu'il est là pour un clin d'œil. C'est pour
moi, ça. J'étais fan avec Cassel et Cotillard.
Moi, je le trouve bien. Franchement, je le trouve dans son personnage. Quoi.
Pour être franc, j'imaginais à l'écriture, dire, et là, il y a Zlatan qui vient et qui les déglingue tous. Allez hop, on note ça, on regarde si c'est possible. Je vous imaginais en train d'écrire ça.
Non, pas du tout, parce que le personnage d'Antivirus, il a été écrit et c'est longtemps après que le scénario soit établi sûr qu'on a cherché en fait un antivirus et que là, moi, je voulais un gladiateur. Je voulais un type qui ressemble vraiment à un gladiateur. Je voulais un type qui soit un combattant. J'avais pensé un moment à McGregor, enfin voilà, le combattant de MMA. Je voulais quelqu'un comme ça. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui m'a soufflé l'idée de Zlatan, que j'ai trouvé génial, parce que c'est vrai que déjà, c'est un personnage, et puis en plus de ça, il est combattant, il fait du taekwondo, il a ce truc, et je me disais, voilà, et je le trouve formidable d'ailleurs dedans.
Il en impose. Mais pardon, pour revenir à la question d'Elsa, effectivement, sur la direction.
La direction, non, je les dirige comme j'ai dirigé d'autres acteurs dans mes films, en fait. Après, ça, c'est le travail. C'était plus facile pour moi d'avoir du recul sur ce que jouaient les comédiens que ce que je jouais moi, en fait. Et ça, c'était... C'est vrai que je me retrouvais dans une scène où je joue Astérix, il me fallait aussi travailler, passer par ce processus avec un coach pour avoir un peu le recul sur moi-même, en fait.
Et vous accordez, entre guillemets, le rôle d'Astérix, c'est un petit truc d'enfant ?
Non, c'était pas du tout prévu, c'était pas du tout prévu, en fait. Je devais pas du tout jouer le rôle, en fait. Je voulais, moi, jouer César au départ. Et puis, j'avais vraiment écrit César pour moi. Et puis après, je me suis rendu compte que c'était pas une bonne idée parce que ça collait trop à rock'n'roll de se retrouver un peu dans les mêmes principes avec Marion sur un truc comme ça d'autodérision. Et du coup, j'ai décidé de laisser tomber. Je devais pas jouer dans le film. Et c'est lors d'une réunion chez Pathé avec Jérôme Sédoux, le patron de chez Pathé, et puis tout le monde, les producteurs, qu'on cherchait un acteur bancable pour jouer Astérix. Et puis, donc voilà, il y avait plein de noms qui circulaient. Et puis, à un moment, Jérôme Sédoux s'est retourné vers moi. Il me dit, mais pourquoi c'est pas toi? Et je dis, non, mais moi, je peux pas. C'est énorme, Astérix. Je pourrais pas faire les deux. C'est pas truc. Il me dit, mais si, c'est très bien. Toi, t'es volontaire. T'as ce côté un peu battant et tout ça et tout, meneur, et en même temps un peu chiant aussi, carré sur les trucs et tout. Et il me dit, voilà, c'est très bien, c'est toi, c'est une parfaite idée. Et il s'est levé, il s'est barré. Je me suis retrouvé à la table avec tout le monde qui me regardait en disant, mais voilà,
bon, c'est super. Bon, on dirait que c'est moi alors.
Voilà, on dirait que c'est moi. Et ça me rassurait pas du tout, je vous l'assure. Et je l'ai déjà fait plein de fois, j'ai joué dans plein de films que j'ai réalisés. Mais
pas un personnage aussi, entre guillemets, connu et important dans l'imaginaire collectif de tous les Français.
C'est sûr, mais en tout cas, il fallait quelqu'un et je l'ai fait.
Et justement, sur l'aspect réalisation, je dirais presque les réalisations, parce qu'il y a l'aspect grand film d'aventure, il y a des scènes très intimistes, il y a des scènes à la manière de ces films asiatiques. Moi, j'ai trouvé ces réalisations vraiment top. Donc, je trouve qu'il y a plusieurs réalisations en une, en plus d'un film dont le tournage a été compliqué, le Covid, la Chine. Enfin, voilà, on n'a pas besoin de, voilà, il n'y a pas besoin de tout remettre, mais ouais. On peut qu'imaginer effectivement tout ce qui vous est tombé dessus en plus de deux trois menhirs.
Ouais, ouais, ça a été 4 ans très très intense. Ouais, je vous le confirme. Ça a été 4 ans très intense, mais c'est vrai que c'était une possibilité pour moi en tant que réalisateur d'aller dans des cinémas que j'ai tellement aimé en grandissant, comme le cinéma chinois d'ailleurs, asiatique, de Tsui Hark ou d'Ang Lee. Et c'est vrai que j'avais envie, tout d'un coup, je me suis dit, il y a la possibilité tout d'un coup de faire des combats au câble, comme Tigre et Dragon et tout ça. Et donc là, il y avait des trucs où je me suis vraiment amusé.
Ouais. Comme des assassins, ouais, effectivement, il m'arrave tout le monde, comme disent mes enfants. Ouais. Dès la première scène, vous évoquez un de vos sujets phares, qui est le thème de l'écologie. La biodiversité, on la voit un peu dans la montagne, mais vous parlez de l'agriculture, des paysans. Alors, Astérix, on peut le dire, parce que c'est dès le début, au tout début, il ne veut plus du tout manger de viande, ce sont des sujets actuels. Ouais. Et est-ce qu'Astérix vous permet de donner voix à vos convictions?
Oui, bien sûr. De toute façon, à chaque fois qu'on écrit un film, on parle un peu de soi, on lâche des sujets un peu personnels. Moi, ce qui m'amusait là-dedans, c'est que cette première scène, qui est la scène un peu phare tout le temps qu'on a dans toutes les BD, dans la scène à la chasse, dans la forêt, au sanglier, il y avait la possibilité là d'aller exactement, enfin en tout cas d'essayer de coller à ce que le travail formidable que faisait à chaque fois René Goscinny, c'est-à-dire de coller à une certaine actualité et de prendre cette actualité et de l'inscrire comme ça dans le langage en fait des Gaulois et de donner cette modernité en fait à leur histoire. Et là, je trouvais ça assez drôle de me dire que tout d'un coup, et si Astérix en avait marre de manger de la viande et qu'il se rendait compte que pour la santé, c'était pas top top, que la potion magique, quand même, on n'est pas sûr que ça soit bon pour l'organisme, qu'on n'a pas le recul. En tout cas, on n'a pas le recul sur les bienfaits de la potion. Et donc voilà, et que tout d'un coup, on est vraiment le côté perplexe et complètement stupéfait d'Obélix qui voit son pote tourner mal, quoi, qui comprend pas. Donc voilà, ça m'amusait effectivement. De parler de ces sujets-là et effectivement ce sont des paysans en fait.
Et la place de la femme aussi hein, qui est importante, qui revient comme ça de temps en temps. Il y a différents personnages qui voudraient bien parler un peu de la place de la femme.
Ouais, bien sûr. Et puis ces deux rôles principaux féminins qui sont la princesse et Tatane, sa fidèle guerrière, c'est des personnages qui sont très très importants aussi. Et j'ai trouvé fort et beau aussi que cette princesse qui vient de perdre son père et qui veut défendre sa mère qui a été enfermée par ce prince félon. Il y avait une énergie là-dedans que je trouvais assez belle, quoi.
Notre émission s'appelle La journée finit bien. Vous, un film, un tournage qui se finit bien, on imagine, c'est bien sûr la ruée dans les salles, ce qu'on souhaite à votre film.
Ou un grand banquet à la fin.
Ou un grand banquet à la fin. Qu'est-ce que c'est, vous, un banquet qui finit bien?
Qu'est-ce que c'est, un banquet qui finit bien?
Bah, en tout cas, une journée qui finit bien.
J'espère le banquet du 1er février qui arrive, où j'espère qu'on sera content de voir que les gens seront allés dans les salles profiter et partager un film ensemble, parce que c'est tellement important pour le cinéma, pour le partage d'un film, pas que à la maison devant un écran en fait. Je pense que c'est très important que on continue à aller voir des films comme ça. Alors moi, je prêche ma paroisse, parce que c'est vrai que je viens de travailler pendant 4 ans et que j'ai envie de partager mon film avec le plus grand nombre de gens, et que je pense que c'est un film qui mérite, en tout cas, parce que c'est un film que j'aime beaucoup. En tout cas, j'ai fait de mon mieux, voilà, et je sais que moi j'ai envie de continuer à profiter des salles de cinéma et d'aller voir des films en salle. Donc j'espère vivement que ce film, rien que pour les 1200 personnes qui ont travaillé dessus, rien que pour les femmes et les hommes qui ont travaillé dessus, qui ont fait des détails, les costumes ont été teints avec des pigments anciens à la main, tous les costumes des Chinois sont découpés à la main, les petits dés de cuir cousus sur 500 personnes. Enfin, il y a eu un travail monumental en déco et tout. Rien que pour ces gens-là, j'ai envie que leur travail soit récompensé, quoi.
Oui, j'ai bien aimé. Vous faites bien de parler des costumes que j'ai trouvé justement poussés, mais pas caricaturaux. On n'est pas dans ces couleurs très criardes, etc.
Non, justement, c'était très fragile parce que c'est ce choix-là. Parce que moi, je voulais que tous les costumes, je voulais que les batailles fassent vrai. Je voulais que ce soit un film vraiment d'une vraie véracité et d'un réalisme vraiment total. Et du coup, ce qui a été un peu compliqué, c'est quand on arrive après chez les Gaulois, rien que le pantalon d'Obélix peut poser problème parce que ça fait tout de suite très cartoon, en fait. Donc, on a essayé de trouver des tissus et des couleurs un peu passées qui donnent soit pas trop criardes et qui, voilà, qui flashent pas trop, en fait.
Vous parliez Guillaume Canet de retourner dans les salles, et on est bien d'accord avec vous, mais j'ai vu qu'il y a Netflix quand même qui est dans l'histoire.
Oui, bien sûr, il y a Netflix qui distribue le film dans beaucoup de territoires dans le monde, en fait, comme ils le font beaucoup maintenant. Quand par exemple le film n'a pas été vendu à l'international, il y a des pays, en fait, où Netflix récupère, en fait, ces pays-là qui n'ont pas été vendus et distribue, en fait, le film dans ces pays-là. Donc c'est bien quand même, parce que le film au moins voyage, et ça permet à des spectateurs de certains pays qui n'ont pas eu la chance d'avoir un distributeur qui achète le film, ça leur permet au moins de voir le film là-bas, quoi.
Des braves, imprudents et de mauvaise foi, bref, soyez gaulois, comme c'est dit dans le film. Dernière question en un mot, le petit Guillaume Canet qui lisait Astérix, il est fier du grand Guillaume Canet qui l'interprète et le réalise?
Ouais, je suis très fier d'être allé au bout de cette histoire. Je suis très heureux de dédicacer justement, de dédier le film à mes deux enfants et d'avoir fait un film que je peux partager avec eux. J'ai vécu des moments déjà avec eux formidables sur le plateau où ils venaient me voir et ils avaient les yeux remplis de joie de voir le village, de voir les personnages. Et ça, c'est des moments qu'on n'oublie pas. Et j'ai fait des projections test avec des enfants. Il n'y a pas très longtemps, avec 500 enfants, et c'est extraordinaire d'entendre des rires pendant tout le film, de les voir à la fin qui viennent me voir, qui me posent je sais pas combien de questions, et c'était ça, c'est des moments magiques,
ouais. Astérix et Obélix, l'empire du milieu de, et avec Guillaume Canet, merci beaucoup d'être venu
nous
voir.
Merci à vous, merci.
Partout à Genève, la journée finit bien sur Radio Lac. Radio Lac.